Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié initialement en 1904 et 1905. Puis remanié par Max Weber, ce classique de la sociologie historique examine les liens entre certaines formes du protestantisme et la formation de l'esprit du capitalisme moderne. Weber ne prétend pas que le capitalisme est né de la religion, ni que les protestants seraient naturellement plus compétents en affaires. Son enquête vise plutôt une configuration historique précise la rencontre entre une éthique religieuse ascétique, une discipline du travail et une conduite économique rationnelle orientée vers le profit durable, en comparant notamment les milieux calvinistes, puritains, piétistes et méthodistes. Il étudie la manière dont des croyances relatives au salut ont pu transformer les comportements quotidiens. Le livre est aussi une démonstration de méthode. Il cherche à comprendre le sens que les acteurs attribuent à leurs pratiques, tout en refusant les explications à cause unique. Il demeure essentiel pour penser les rapports entre idées, institutions, intérêts et transformations économiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'esprit du capitalisme désigne une conduite morale du profit. Pour Weber, l'esprit du capitalisme ne se réduit ni au commerce, ni à la cupidité, ni à la simple existence de la monnaie. Des activités de spéculation, de conquête et de recherche de gains ont existé dans de nombreuses sociétés et bien avant le capitalisme moderne. L'objet de son analyse est un éthos particulier, la recherche systématique, calculable et continue du profit dans le cadre d'une profession. Cette orientation impose de considérer le travail non comme une nécessité pénible à limiter dès que les besoins sont couverts, mais comme un devoir régulier. Weber mobilise les préceptes attribués à Benjamin Franklin pour éclairer cette morale pratique de la ponctualité, du crédit, de l'épargne et de la fiabilité. Leur intérêt ne tient pas à une recette commerciale isolée, mais à la valeur éthique conférée à une existence organisée autour de l'activité professionnelle. Le gain devient légitime lorsqu'il résulte d'une conduite disciplinée et rationnelle, plutôt que d'une aventure prédatrice ou d'une jouissance ostentatoire. Cette distinction permet à Weber de séparer le capitalisme moderne d'une volonté universelle de posséder davantage. Il étudie ainsi les dispositions culturelles qui rendent possible une organisation durable des entreprises, du calcul et du réinvestissement, sans en faire la seule condition de leur apparition. Deuxièmement, la prédestination transforme l'angoisse religieuse en discipline quotidienne. Le cœur du raisonnement porte sur les effets pratiques de la prédestination dans certains courants calvinistes. Si le salut dépend d'un décret divin inaccessible et non des œuvres accomplies par l'individu, le croyant ne peut obtenir une certitude doctrinale sur son élection. Weber analyse alors la tension psychologique et sociale que peut produire cette incertitude. Dans la pratique pastorale, la vie active, disciplinée et moralement réglée a pu être valorisée comme un indice subjectif de la grâce, sans devenir pour autant une cause du salut. Cette nuance est décisive, le travail ne rachète pas l'âme, mais il offre aux croyants une manière de combattre le doute et de vérifier sa constance. La recherche répétée de cette assurance favorise une surveillance de soi, une régularité des conduites et un rejet de l'oisiveté. Weber ne décrit donc pas une déduction mécanique entre dogme et richesse. Il reconstruit un mécanisme historique dans lequel une doctrine religieuse, interprétée et encadrée par des pratiques collectives, façonne des habitudes. Le lien avec le capitalisme se situe dans cette intériorisation de la méthode, du contrôle de soi et de la persévérance, plus que dans une approbation religieuse directe de l'enrichissement. Troisièmement, la vocation professionnelle relie devoir religieux et activité dans le monde. Weber accorde une place centrale à l'idée de vocation professionnelle issue de la Réforme. Elle modifie la hiérarchie médiévale entre les devoirs ordinaires du monde et les formes de renoncement religieusement valorisées, au lieu de réserver la perfection spirituelle à une vie monastique ou retirée. Certains protestantismes attribuent une dignité morale à l'accomplissement sérieux des tâches inscrites dans la position sociale de chacun. Le croyant est appelé à agir dans le monde avec méthode et responsabilité. Dans les courants ascétiques étudiés par Weber, cette valorisation ne signifie pas que toute réussite matérielle est bonne. Elle exige que l'existence soit soumise à une discipline éthique, respect des engagements, sobriété, travail constant et usage réglé du temps. La vocation donne ainsi au métier une portée qui dépasse la satisfaction des besoins immédiats. Elle contribue à rendre durable une conduite professionnelle rationnelle, même lorsque cette conduite demande de différer le plaisir. Weber montre cependant que cette représentation dépend de traditions religieuses et de traductions historiques spécifiques. Son analyse évite donc de transformer le protestantisme en bloc homogène. La vocation est un opérateur culturel, elle aide à comprendre comment un devoir spirituel a pu soutenir une orientation méthodique vers les activités économiques ordinaires. Quatrièmement, l'ascétisme intramondain favorise épargne et réinvestissement sans célébrer le luxe. Une des contributions les plus concrètes de l'ouvrage consiste à expliquer pourquoi une éthique de renoncement peut avoir des conséquences économiques. L'ascétisme protestant analysé par Weber ne commande pas de fuir le monde, mais d'y exercer une maîtrise morale. Il encourage le travail intensif tout en condamnant le gaspillage, la consommation luxueuse, les plaisirs jugés improductifs et la dépense destinée à afficher un rang. Cette combinaison peut créer des conditions favorables à l'accumulation des revenus issus d'une activité régulière ne sont pas nécessairement dissipés dans la jouissance et peuvent être conservés ou réinvestis. Weber souligne ainsi une affinité entre une discipline religieuse et la formation de capital sans réduire le processus à une intention économique. Les croyants poursuivent avant tout une vie conforme à leurs exigences de salut et non un programme de croissance. Les effets économiques apparaissent comme des conséquences indirectes de pratiques morales. Cette thèse permet aussi de distinguer l'entrepreneur rationnel du consommateur riche ou du spéculateur aventureux. Le capitalisme qui intéresse Weber repose sur une organisation prévisible du travail et du calcul, soutenue par une disposition à différer la consommation. Son argument articule donc croyances, habitudes individuelles et structures économiques, au lieu de traiter ces sphères comme entièrement séparées. En dernier lieu, la sécularisation de l'éthique conduit au diagnostic de la cage d'acier. Weber ne présente pas l'éthique protestante comme une explication totale ou permanente du capitalisme. Il insiste sur le fait que les conditions religieuses ont contribué à former un esprit, puis que les institutions économiques modernes ont acquis leur propre force. Lorsque la motivation religieuse recule, les impératifs de discipline, de calcul et de rendement peuvent subsister sous une forme séculière. Le travail méthodique cesse alors d'être nécessairement vécu comme un devoir de salut, il devient une exigence imposée par la concurrence, l'organisation bureaucratique et les mécanismes du marché. Cette autonomisation nourrit l'image célèbre de la cage d'acier, qui désigne moins une prophétie simpliste qu'un diagnostic sur les contraintes de la rationalisation moderne. Les individus peuvent se trouver insérés dans des systèmes où l'efficacité, la prévisibilité et la spécialisation structurent les choix de vie. Le livre garde ainsi une portée critique, il ne célèbre pas automatiquement le capitalisme, pas plus qu'il ne condamne abstraitement toute rationalité. Il interroge les origines historiques de normes devenues ordinaires et les effets ambivalents de leur généralisation. Cette perspective distingue Weber des théories qui expliquent les idées uniquement par l'économie ou inversement l'économie uniquement par les idées. En conclusion, cet ouvrage convient particulièrement aux étudiants et chercheurs en sociologie, histoire, philosophie, sciences religieuses et économie politique. Mais il reste accessible aux lecteurs désireux de comprendre pourquoi le travail, la réussite professionnelle et la rationalité économique ont acquis une telle valeur dans les sociétés modernes. Sa lecture demande de la précision, car Weber multiplie les distinctions entre doctrine, groupes religieux, motivations individuelles et conséquences collectives. Cet effort est aussi son principal bénéfice intellectuel, il apprend à ne pas confondre corrélation, causalité et affinité historique. Le lecteur y gagne une méthode pour analyser comment des croyances peuvent produire des effets non intentionnels, puis survivre sous des formes sécularisées dans les institutions et les habitudes, par rapport aux récits qui réduisent le capitalisme à l'innovation technique. À la seule accumulation matérielle ou à une nature humaine intéressée, Weber propose une explication culturelle rigoureuse et limitée. Il ne remplace pas une cause unique par une autre. Il met en relation une éthique ascétique, une conception de la vocation, des pratiques de travail et les conditions de développement d'une économie rationnelle. Cette attention au sens vécu des actions, jointe à une ambition comparative, explique la singularité durable du livre. Loin de fournir une histoire linéaire du capitalisme, il offre des outils pour discuter ses origines morales, ses mécanismes de rationalisation et ses contraintes contemporaines. Si vous souhaitez soutenir Max Weber, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.